hockey de Michel.
Dimanche, on lit avec José Bournival au FM 103.3.
Bon dimanche matin. Bienvenue à Dimanche on lit. José Bournival qui s'installe avec vous pour la prochaine heure. Très heureuse de prendre le relais de Valérie Guibeault pour cette nouvelle saison de Dimanche on lit. Un grand merci à Valérie là, qui a tenu le fort l'an dernier. Donc, j'aurai le plaisir une semaine sur deux en alternance avec Jacques Létourneau d'animer cette émission littéraire. Je vais la mettre à ma main, bien sûr. Je vais vous proposer des chroniques de mon cru sur les actualités littéraires, entre autres. Je vous ferai des suggestions de lecture. Je vous mentionnerai bien sûr les sorties de livres à ne pas manquer. Et chaque semaine, on aura une entrevue avec un auteur ou une autrice. Cette semaine, La révolution des identités de genre, enfin expliquée de Michel Doré, publié chez Trécaré. Bienvenue à Dimanche on lit.
Vous écoutez Dimanche on lit avec José Bournival au FM 103.3.
Voici maintenant mes suggestions de lecture pour la semaine de nouveaux livres qui ont été publiés récemment. Je débute avec La petite et le vieux des éditions XYZ. L'autrice Marie-Renée Lavoie a publié en 2010 le roman La petite et le vieux. Ça fait donc 14 ans. Le livre a remporté quantité de prix en plus d'être traduit et publié à l'étranger. Plus de 60 000 exemplaires vendus. Plus tard, cette touchante histoire va être portée à l'écran cet automne, le 4 octobre pour être plus précise, par le réalisateur Patrice Sauvé. Dans ce film-là, on va retrouver entre autres Gilda Roy, Marilyn Castonguay, Vincent Guillaume-Otis et une petite nouvelle dont le nom est à retenir, la jeune Juliette Brarucha. Les éditions XYZ proposent donc une réédition de l'œuvre bonifiée en lien avec la sortie du film. En plus du texte original, on retrouve cette fois-ci une introduction de l'autrice qui évoque l'adaptation de son œuvre au grand écran, des photos de tournage, des extraits inédits également du scénario. Et c'est drôle parce qu'à l'arrière du livre, on a une citation de Pierre Foglia qui prédisait qu'il y aurait éventuellement un film fait à partir de cette œuvre. Et c'est le cas 14 ans plus tard. Si vous n'avez jamais lu Marie-Renée Lavoie, vous allez adorer son aisance à faire couler les mots littéralement. On entend parler ses personnages dans une langue qui est tellement près de nous, du quotidien, mais qui est poétique à la fois. Donc, je vous le recommande. La petite et le vieux en réédition aux éditions XYZ. Allons-y maintenant avec Parents solo, héros du cash flow. C'est un guide de Maude Gauthier publié chez Québec Amérique. À la fois un guide pratique et un essai qui s'adresse aux personnes solo-parentales. Et ça, ben, c'est près du tiers des familles québécoises qui vivent cette réalité-là maintenant. Alors, il était plus que temps qu'on s'intéresse aux finances de ces adultes qui vivent seuls avec des enfants. Maude Gauthier partage une foule de trucs dans son livre, non seulement pour garder le contrôle de ses dépenses, mais aussi pour garnir son portefeuille de placement, par exemple. Il y a différents grands chapitres, que ce soit l'achat d'une maison, le budget, la gestion des dettes, mais aussi comment maximiser, par exemple, l'aide gouvernementale. Je trouve qu'il y a des sujets qui sont diablement bien étoffés, qui sont originaux également. Donc, on voit vraiment qu'on a compris la réalité des solos parents. Cet ouvrage-là, il est empathique aussi parce que l'autrice, elle est elle-même solo-parentale et elle s'est inspirée de son vécu personnel. On retrouve des avis d'experts, des scénarios concrets, des stratégies pertinentes, puis il y a des témoignages également de solo-parents. Le sujet est traité avec légèreté et humour, hein, parce qu'on va se le dire, quand on parle d'argent, parfois ça fait des lectures un peu arides, mais là, ce n'est pas le cas. C'est une petite plaquette, aussi une centaine de pages à peine. Alors, si vous avez des parents qui élèvent seuls des enfants ou qui vivent seuls avec des enfants, ben c'est un livre à mettre dans leurs mains, finalement. Parents solo, héros du cash flow, un guide de Maude Gauthier aux éditions Québec-Amérique. On parle maintenant d'un tout petit roman. Je l'ai tellement aimé. Autostop de Daniel Bélanger. Vous connaissez sans doute Daniel Bélanger comme auteur, compositeur et interprète. Il a publié en 2022 Poids lourd, qui était un recueil de poésie. Eh bien, cette année, il revient avec un court roman. Si vous aimez sa poésie, moi, je vous le recommande chaudement. Ça s'appelle Autostop. C'est publié donc aux éditions Les Herbes Rouges. J'ai vraiment adoré. On suit l'histoire de Vincent. C'est le nom de son personnage. C'est un jeune adulte désillusionné qui erre en Europe en autostop. Il ne sait pas trop où aller, ni ce qu'il fuit d'ailleurs, jusqu'à ce qu'il rencontre Anna, à Florence. Le texte est rythmé comme une chanson, c'est touchant. On retrouve nos jeunes années, je dirais, à travers le personnage de Vincent. Donc, cette espèce de quête de soi qui est jamais vraiment claire au début de la vingtaine. Moi, j'ai eu envie de vous lire la première page, juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Je vous lis ça à l'instant. Je faisais de l'autostop sans trop savoir si j'en avais envie ou non. Je me plantais au bord de la route, espérant que parmi la cohorte des bolides, l'un d'eux freine sa course et me fasse monter. L'aventure n'était pour moi possible qu'à condition de ne jamais en perdre le contrôle, sans quoi elle avortait. J'étais un être raisonnable et arrogant, selon qui une improvisation ne pouvait déboucher que sur le vulgaire et le convenu. C'est pour cela que, rétrospectivement, parler de cette époque me donne l'impression de rapporter les faits et les gestes d'une personne qui ne serait pas moi. Je suis aujourd'hui différent. Et c'est écrit vraiment comme une chanson, avec de courtes phrases. C'est de toute beauté. Si vous avez envie de vous gâter, je vous le recommande. Autostop de Daniel Bélanger, aux éditions Herbe Rouge. Livre pour enfants maintenant, je ne peux passer sous silence la sortie de ce livre de l'auteur Samuel Larochelle, Le plus petit sauveur du monde 2. Samuel Larochelle, c'est un auteur complet qui a publié des romans pour adultes à cause des garçons, parce que tout me ramène à toi, entre autres. Il a publié également pour les adolescents des récits poétiques, des biographies, des nouvelles littéraires, des articles, en plus d'animer un balado qui s'intitule « Comme un livre ouvert ». Il produit aussi des cabarets littéraires un peu partout au Québec. Et là, il nous propose un livre jeunesse qui est tout beau. Il fait suite, en fait, à la publication de Le plus petit sauveur du monde qui a été publié en 2022. Ce livre-là a été lauréat du prix du gouverneur général pour les livres illustrés. Et Samuel revient avec son personnage de Florent, qui est maintenant devenu un adolescent. Et l'éco-anxiété qu'il ressentait lorsqu'il était enfant s'est transformée en un désir d'action. Et l'action, on la retrouve dans les illustrations de Geneviève Biguet, qui est la complice de Samuel pour mettre au monde ce livre-là. Elle a choisi une palette de couleurs tout en subtilité, beaucoup de poésie, et les images répondent aux mots de Samuel. Il y a beaucoup de mouvements, des images qui se complètent d'une page à l'autre ou qui en reprennent des éléments. C'est toujours très, très, très joli. Et il est question dans ce livre-là d'urgence climatique et de solutions concrètes à ces enjeux-là. Alors, pour aborder ces thèmes avec les enfants, un magnifique livre qui vient de paraître donc aux éditions XYZ, Le plus petit sauveur du monde. Et je termine mes suggestions de la semaine avec un guide pratique, en fait, un livre qui arrive à point nommé avec l'automne et ses couleurs. C'est un guide qui donne envie d'explorer nos espaces. Les éditions Ulysse n'ont plus besoin de présentation, leurs guides sont toujours très complets. Et dans celui-ci, c'est plus de 150 lieux de marche qui sont répertoriés pour vous. Le titre en est tout simplement « Randonnée pédestre au Québec », donc aux éditions Ulysse. 150 lieux de marche qui sont répertoriés. Il y a des listes thématiques pour choisir votre prochaine excursion. Il y a de petits pictogrammes aussi qui indiquent si le lieu est accessible, par exemple, avec votre chien. Si vous aimez voir les animaux ou la flore, est-ce que c'est un endroit qui est particulièrement attrayant pour ça? Quels sont les lieux idéaux pour une balade en famille, etc.? Le Québec au complet est représenté et chaque lieu a même son degré de difficulté d'afficher pour vous permettre de bien choisir vos escapades. Alors, à offrir en cadeau à tous vos amis, tripes de plein air. Mon invité cette semaine, il s'agit de Michel Doré. Il est professeur émérite de l'Université Laval, sociologue de l'intimité et de la sexualité. Et quand on regarde sa feuille de route avec attention, on réalise qu'il a publié de nombreux ouvrages littéraires en lien avec ces sujets-là. Et il vient de publier un livre essentiel, à mon avis, qui s'intitule « La révolution des identités de genre, enfin expliquée ». C'est aux éditions Trécaré. Michel Doré, bonjour!
Oui, bonjour.
Hey Michel, la sexualité au sens large, là, c'est un domaine qui est vraiment fascinant. Toi, tu travailles depuis des années à éclairer la population enjeux-là.
45 ans, oui, puis j'écris quand même beaucoup d'ouvrages, hein, je pense que c'est mon 30e en français, j'ai bien compté. J'ai parlé quasiment de tous les sujets. Mais là, tu sais, on tombe un sujet de l'heure, si on peut dire, tu sais,
oui.
Il y a une comité des sages. Les gens se posent beaucoup de questions là-dessus, puis je me disais, ben voyons, moi qui travaille là-dessus depuis longtemps, c'est peut-être à mon tour de donner leur juste.
Mais puis tu vois, c'était une de mes premières questions que je voulais te poser. Est-ce que tu sens que les gens sont curieux, sont intéressés, veulent apprendre des choses quand on parle de sexualité au sens large, là, pas nécessairement du thème de ce plus récent livre-là, ou si tu sens qu'il y a encore beaucoup de tabous puis de malaise qui entourent tes sujets de prédilection finalement?
Il y a encore beaucoup de curiosité. Écoute-moi, là, j'ai pris ma retraite il y a 2 ans. Je pense que j'ai fait 100 conférences, j'en fais en moyenne.
Aïe, aïe, aïe. Ah oui?
J'ai fait le tour du Canada. J'ai fait beaucoup les cégeps, même des écoles secondaires m'ont invité, des cégeps, des universités, toutes sortes d'associations, des salons du livre. Ça peut être, ben, tu sais, mes livres précédents, ça parlait sur le consentement, puis comment, puis tu sais, la masculinité bienveillante, là.
Oui.
Mon livre précédent s'appelait La masculinité antitoxique. Bon, celui-là, c'est sur les identités de genre, qui sont des sujets qui questionnent encore beaucoup les gens, où il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais beaucoup de désinformations et de mésinformations. Les gens disent, c'est vrai, c'est ça. Alors, ben, moi, je suis un scientifique, malgré que je suis un pédagogue aussi, surtout un vulgarisateur, c'est ce que j'essaie de faire avec ma maison d'édition, avec ils sont tellement merveilleux chez Précaré. Et puis, on essaie de faire des livres vraiment grand, grand public, mais avec les bonnes affaires, les vraies affaires, c'est documenté, mais tout le monde va comprendre.
Mais tu sais que c'est ça qui m'a attirée, hein? Moi, je suis mère de 4 enfants, dont des adolescentes, qui ont ces sujets-là. Pour qui, en fait, ces sujets-là sont très sensibles? J'ai l'impression parfois là, que je marche sur des œufs. Faut que je fasse attention à ce que je dis.
C'est pas tout seul, tous les parents que je crois.
Oh! Est-ce que c'est, dans le fond, est-ce que ça a été ça la bougie d'allumage pour ce projet-là, d'avoir envie d'outiller les parents, les enseignants qui côtoient les jeunes?
Oui. Parce que moi, il y a eu deux étincelles, si on peut dire.
Okay.
D'abord, au début de l'année, tu sais, j'ai été auditionné par le comité des sages, là, qui a été nommé pour étudier tout ça, les identités de genre, par le gouvernement. Mais aussi, depuis un bon bout de temps, j'avais beaucoup de monde. J'ai été invité beaucoup à donner des formations pour des entreprises, pour des ministères, des services publics. Les gens disaient, oh, comment qu'on peut faire sur se retrouver, tu sais, genre, on peut-tu dire encore monsieur, madame, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on sort de ça, c'est quoi les bons mots, puis les mots qu'il faut plus utiliser,
oui.
On ne comprend plus, il y a des mots nouveaux. Faisons ça simple. Et tout ça, je me suis dit, ben oui, la demande est là. Le monde se pose tellement de questions. Et puis, le monde ne veut pas se tromper, mais tu sais, c'est pas grave, ça. On apprend tous en même temps. Et puis, ce que j'ai découvert aussi beaucoup, surtout en travaillant le livre, puis en regardant les statistiques un peu dans le monde, c'est que, c'est quand on parle de diversité sexuelle et de genre, tu sais, les gens, tu sais, moi, je suis une personne âgée, là, tu sais, les gens de mon âge, on disait, là, pendant très longtemps, on dit, oh, c'est 5%, peut-être jusqu'à 8% maximum, 10% de la population.
Ça a augmenté.
C'est les jeunes de moins de 25 ans, c'est 20%.
C'est fou, là, c'est un jeune sur 5.
Oui, c'est un jeune sur 5. Alors, c'est pour ça que les écoles, là, se disent, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on s'informe. Les jeunes nous apprennent plein d'affaires, puis on veut être au moins à leur niveau. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Moi, j'ai fait le tour. J'ai travaillé même avec CROP, là, il y a jusqu'à tout récemment. On a fait un grand sondage pan-canadien sur la diversité sexuelle et de genre. Puis ça a confirmé les chiffres qui sont mondiaux maintenant. On a les mêmes en France, en Angleterre, aux États-Unis, tout ça. Ça tourne autour de 20% ou pas loin. Alors, donc, c'est beaucoup de jeunes, puis ces jeunes-là, tu sais, c'est eux autres là, qui demandent là, des toilettes non-genrées, de pouvoir utiliser le prénom, un prénom d'usage qui est peut-être pas celui là qui paraît dans leur certificat de naissance. On sait aussi que depuis quoi, un peu plus que 2 ans maintenant, au Québec, il y a plus 2 sexes, hein, il y en a 3. Parce que on peut cocher à la naissance d'un enfant, bon, F, M comme maladie, d'habitude, là, masculin, féminin.
Oui.
Sexe masculin, féminin, mais on peut cocher X aussi, parce que, et ça, c'est une demande notamment des personnes intersexuées, parce que à peu près un enfant, un bébé sur 100 né plus ou moins avec les deux sexes, est né avec les... Puis on peut pas le déterminer avec précision. Alors on se dit, ben, on le verra au fil du temps, puis si les deux sexes restent, ben la personne décidera une fois adulte. Sans compter que aussi ça permet aux personnes trans aussi, personnes transgenres, transsexuées, bon, il y a beaucoup de façons d'être transidentitaire, de pouvoir changer. Ça aussi, c'est, non seulement c'est possible, mais c'est sans doute un peu plus facile depuis que cette loi-là, la loi 2, a passé il y a 2 ans et demi. Alors, ça fait beaucoup de changements apportés par cette jeune génération qui se reconnaît dans cette diversité-là, qui utilise et invente des mots... ça se dit pas. Alors, tu sais, moi, j'ai appris, là, tu sais, demi-genre, adrosexuel, agenre, il y en a des mots, là.
Tu sais que ça me fait rire, Michel, que tu commences avec ça, parce que moi, c'est une des choses que j'ai beaucoup aimées de ton livre. C'est que là, enfin, j'ai l'impression que je comprends des termes que j'entendais, mais qui étaient comme un peu flous. Puis pour le bénéfice de tout le monde, parce que tu vulgarises tellement bien, est-ce que tu pourrais différencier pour nous l'identité de genre, l'identité de sexe et de sexualité? Parce que honnêtement, moi, ça a été une révélation à la lecture de ton livre de comprendre ça.
Ah ben c'est fin de me dire ça, parce que c'était beaucoup mon but, hein, de démêler ça assez clairement. Tu sais, on a un corps qui est sexué. On disait tantôt à la naissance, la majorité des gens, 99% des gens, on est homme, on est femme, biologiquement. Puis il y a peut-être un petit peu plus qu'un pour cent où on le sait pas trop. Mais ça, c'est notre corps. Notre corps est sexué, on choisit pas ça, on vit avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec notre corps? Est-ce qu'on l'exprime de faire avec de la masculinité, de la féminité, de l'androgynie, de la non-binarité, comme on dit maintenant? Alors, ben ça, c'est notre genre, parce que, tu sais, t'as ton corps, mais maintenant, la façon dont tu l'habilles, tu le maquilles ou pas, tu le peignes, etc., ben là, c'est toi qui décides, hein? Alors, ça, c'est le genre. Et c'est pour ça que le genre, le sexe peuvent être différents.
C'est deux choses,
évidemment,
c'est ça.
On peut être un homme masculin et une femme féminine, mais il y a des hommes qui sont plus féminins, il y a des femmes qui sont plus masculines ou androgynes. Et ça fait, c'est ça le genre, en fait. C'est ce qu'on fait avec notre corps. Et puis la sexualité, c'est ben, quand on veut partager ce corps-là avec quelqu'un d'autre, on s'en va vers qui? Alors, c'est nos attirances amoureuses ou sexuelles. En général, nos amours, la sexualité, ça va ensemble, mais pas toujours. Il y a des gens qui vont dire qu'ils aiment, mais sans trop désirer, puis des gens qui désirent beaucoup des partenaires, mais sans trop les aimer. Alors, c'est pour ça que moi, je parle des attirances amoureuses et sexuelles.
Oui.
Les deux vont souvent ensemble, mais pas toujours.
Tu sais quoi, Michel? Je pense qu'on vient de rendre un grand service public juste en mentionnant ça en ondes. Je te propose de faire une toute petite pause parce qu'il y a un autre aspect, moi, comme parent, que je trouve surprenant, en fait, et c'est la fluidité de tout ça chez les jeunes.
Ah oui, c'est un autre thème important.
Oui, hein? Alors je te propose de faire une pause et on en parle dans quelques minutes.
Dimanche, on lit avec José Bournival au FM 103.3.
Nous sommes toujours en compagnie de l'auteur Michel Doré qui vient de publier un livre extraordinaire qui va plaire aux enseignants, aux parents qui côtoient les jeunes, mais à tout le monde en général également. Là, la révolution des identités de genre, enfin expliquée, c'est publié aux éditions Trécaré. Et Michel, on en parlait il y a quelques instants. Comme parents, on est un peu secoués là, par tout le vocabulaire, toutes les nouveautés que les jeunes nous amènent. Mais parmi ces nouveautés-là, il y a aussi l'aspect de fluidité. Je pense que c'est un défi de comprendre ça pour les parents. Comment tu pourrais imaginer ou résumer tout ça simplement pour nous?
Oui, en fait, on a deux défis en même temps, la fluidité, la non-binarité, mais ça va ensemble, comme on va le comprendre.
Oui.
Les jeunes, là, se donnent la permission d'explorer. C'est-à-dire, ben, regarde, là, je vais-tu être plus féminin, masculin, androgyne, tu sais, puis il y a des mots plutôt nouveaux, queer, etc. Comment je vais définir mon genre? Ben, ils se donnent la permission d'explorer. Donc, il y a un mot qui est apparu, qui est beaucoup utilisé par les jeunes générations. Donc, grosso modo, les générations Z et Alpha, les moins 25 et ceux qui suivent, c'est la fluidité. Ben, regarde, moi, je suis fluide, je suis pas trop sûr. Peut-être que je préfère ça actuellement, mais demain, je ne sais pas.
Oui.
Alors, parce que les jeunes ont pu t'attirer. Les jeunes de ma génération, moi, bon, je suis pas mal plus vieux que toi, mais tu sais, on était d'un bord ou de l'autre. Hein? On
puis ça
était,
finissait là, là.
Masculin, féminin, au moins hétéro.
Oui, c'est ça. C'était simple.
On oublie ça. On oublie ça. Les moins de 25 ans, les autres regardent, là, c'est bien plus complexe que ça. Moi, je me donne la permission de bouger à l'intérieur de ça. Je suis pas tout l'un tout l'autre. Je peux être un peu les deux et de façon différente à des moments différents. C'est pour ça qu'on parle de plus de ces deux concepts-là, qui, à mon avis, sont marquants pour ces deux générations-là, des plus jeunes, là.
Oui.
C'est la fluidité. Ils se promènent, puis un jour, ils vont dire, ben, ta fille peut te dire, ben, je suis hétéro, le lendemain, elle va te dire, non, je pense que je suis bisexuel. Finalement, je pense sexuel, mais sais-tu, je suis peut-être lesbienne. Et puis, le mois d'après, peut-être que, ouais, il y a peu de transidentité dans mon affaire, je sais pas trop. Parce qu'ils se permettent d'explorer, ils sont aussi en contact avec beaucoup d'informations, bonnes ou mauvaises, là, sur le web. Mais ils vont dealer avec ça. Et puis, ils s'obligent pas, comme les gens des plus vieilles générations, disons les 35 ans et plus, à dire, non, moi, je suis un homme 100% homme, une femme 100% femme, 100% hétéro, moi, etc. C'est pas mal fini, ça, pour ces générations-là. On est dans la créativité, dans le fait de dire, ben, chacun doit trouver sa propre façon d'être bien, là,
ouais,
avec soi et avec les autres dans ses relations amoureuses et sexuelles éventuellement.
Il y a une chose que j'ai beaucoup aimée de ton livre aussi, parce que là, peut-être qu'en nous entendant discuter, il y a des gens qui font, aïe, aïe, là, je suis loin de ça, là, je comprends rien, ça me regarde pas. Mais t'as poussé l'inclusion vers des clientèles peut-être plus traditionnelles qui se sentent pas nécessairement concernées par tout le nouveau vocabulaire dont on parle, là, depuis quelques minutes, puis l'étendue des possibilités qui viennent avec ça. Mais t'écris clairement dans ton livre que on a le droit de s'intéresser de près à la diversité sexuelle et de genre, même si on n'en fait pas partie. Oui, mais déjà là, ça aide, hein, énormément.
Oui, moi, il y a beaucoup de gens, je comprends pas tout, tu sais, moi, j'ai l'âge, d'être grand-parent, je suis pas grand-parent, je suis parent, mais je suis pas grand-parent encore. Mais, tu sais, je connais beaucoup de grands-parents, qui disent, mais mon Dieu, je comprends pas,
ouais,
c'est pas grave de comprendre ou pas, t'as tout le temps de comprendre, mais regarde, l'important, accueille ton enfant ou ta petite-fille ou ton petit-fils qui te parle de ça, là. L'important pour eux autres, c'est de se sentir écouté, de se sentir compris. T'es pas obligé d'être d'accord avec tout, t'es pas obligé de tout comprendre non plus. L'important d'une famille, c'est que les jeunes de ta famille, là, sentent qu'on est à l'écoute de leurs besoins, de leur réalité, puis on va apprendre, tu sais, on apprend aussi de ces jeunes générations, parce que c'est pas pour rien le titre du livre, La révolution des identités, parce que je pense qu'il y a vraiment une révolution, et comme toute révolution, ben, ceux qui la font pas la regardent, puis sont curieux, se posent des questions, et c'est normal aussi, là. Faut pas se sentir mal à l'aise parce qu'on comprend pas tout, et ce livre-là sert à ça pour comprendre un peu mieux.
Puis je suis contente de t'entendre, parce que ma prochaine question portait justement sur l'empathie et la bienveillance. C'est des thèmes, oui, qui reviennent dans tes écrits. Oui. T'expliques, en fait, c'est l'impression que j'ai eue, que ce dont les jeunes issus de la diversité sexuelle ont le plus besoin, c'est justement ça, notre désir d'essayer de les comprendre, de se, oui, mettre à leur place. Est-ce que j'ai bien analysé tout ça?
Ah, tout à fait.
Oui.
Tout à fait, ça traverse mon livre. Puis tu sais, moi, j'ai enseigné la sociologie de la sexualité, mais j'ai enseigné beaucoup la relation d'aide aussi. Alors, tu sais, pour moi, d'être bienveillant, d'être empathique, d'essayer de se mettre à la place des autres, c'est bien, bien, bien important. Et c'est, tu sais, il y a encore des jeunes, là, tu sais, qui sont jetés dehors, par leur famille, là,
ouais,
quand ils se révèlent LGBT, là, par exemple. Alors, donc, tu sais, il y en a qui sont violentés, là, ils comprennent encore, là, par leur famille. Il y a de l'intimidation encore beaucoup dans les écoles. Alors donc, ben les gens ont besoin, là, que leurs proches, leur famille, leur fratrie, ça peut être les grands-parents, les parents, mais aussi, tu disais tantôt, les professeurs ont aussi à s'ouvrir à cette diversité-là, là. Pas dire, mon Dieu, je vais fermer les yeux, je vais pas voir ça, je comprends pas. Ben, je comprends pas, mais justement, j'ai tout à apprendre. Ouvrons-nous. Et puis, avec bienveillance, tu sais, on peut le dire, même moi, là, tu sais, je comprends pas tout, là.
Ça me rassure d'entendre ça.
Ah, ben, on peut pas, parce que c'est des réalités, il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de mouvements dans ça,
ouais,
et puis l'important, puis tu sais, moi c'est mon métier d'être sociologue aussi, là, tu sais, c'est normal que je sois à l'écoute, mais je trouve que on pense toujours que les plus vieux apprennent aux plus jeunes, mais pour cette révolution-là.
C'est l'inverse.
Les générations ont beaucoup à nous apprendre, finalement.
Puis, il y a quelque chose de beau. En tout cas, moi, j'ai comme fait la paix avec ça. Cette espèce d'impression, à cause de la fluidité, justement, que je perçois chez les jeunes dans mon entourage, parfois, on a l'impression, ben là, c'est juste une mode. C'est juste parce qu'ils veulent faire comme les autres. Alors que ça part vraiment d'un besoin interne de s'auto-déterminer. Ça aussi, il y en est question dans ton livre.
Oui, oui, c'est très important. Tu sais, est-ce que c'est une mode ou pas? Moi, je pense pas que ce soit une mode. Je pense que les jeunes... Tu sais, les jeunes ont vécu avec la révolution féministe, la révolution LGBT, les chartes de droit. Fait qu'ils ont compris là qu'ils ont le droit d'être eux-mêmes. Là.
Et particulièrement les filles, hein? Particulièrement les filles. Là, tu parles de féminisme, mais tu le précises que le féminisme a amené ça aux jeunes femmes puis aux jeunes filles.
Mais oui. Ouais. Mais oui, puis tu sais, on se dit, tu sais, il y a des gens qui disent, oui, mais des jeunes femmes maintenant qui disent, oui, mais je vais avoir un genre masculin. Ben oui, mais on a dit aux filles, exprime-toi, puis exprime-toi comme fille, ça peut être exprime ta féminité, mais exprime ta masculinité aussi.
Tout
là.
À fait, ouais.
Alors donc, oui, ces générations-là sont héritières de révolutions qui ont lieu il y a peut-être quelques décennies, et puis qui ont développé des façons de voir et des façons d'être différentes. Je pense que, en ce sens-là, on a parlé au Québec longtemps de la révolution tranquille, tout ça, mais c'est une autre révolution.
Voilà.
Ça sera tranquille ou pas, on verra.
Oh, je dirais que c'est pas trop tranquille, mais on va l'accueillir. En tout cas, une chose est sûre, Michel, ton livre nous aide grandement à faire face à la musique, à comprendre tous ces enjeux-là, puis à comprendre nos jeunes, puis c'est tellement important. Alors, je le répète, le titre de cet ouvrage est « La révolution des identités de genre, enfin expliquée », et c'est publié aux éditions Trécaré. Michel Doré, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Bien, ça a été un grand plaisir pour moi. Merci.
Au revoir. Il est maintenant temps pour moi de vous parler de ces actualités littéraires qui se déroulent donc dans les prochains jours. Je débute avec le Festival international de littérature qui se tient du 18 au 28 septembre prochain. C'est à Montréal, déjà la 30e édition. Ce festival-là est le seul festival littéraire annuel de langue française à Montréal. On le surnomme le Fil. Et c'est tout d'abord 10 jours de fête annuelle des mots à laquelle vont participer près de 200 écrivains, écrivaines, artistes également d'ici et d'ailleurs. Ça se déroule principalement dans des lieux montréalais, autres que ceux qui sont traditionnellement associés aux livres, comme les théâtres, les salles de spectacle, les cinémas et même des espaces publics. Il y a des rencontres, des spectacles, du cinéma, donc en lien avec la littérature, des salons littéraires et même une section jeunesse, donc à vivre en famille. Moi, je retiens entre autres la soirée de clôture qui sera un bal littéraire. Ça coûte une trentaine de dollars. Ça va être à la salle La Chapelle. Et je trouvais que c'était intéressant. En fait, les bals littéraires, c'est une tendance à l'international. Montréal aura donc le sien en clôture du Fil. Il y a quelques auteurs et autrices qui n'ont peur de rien, c'est le cas de le dire, qui vous donnent rendez-vous pour une soirée littéraire et dansante. Leur défi, c'est de se réunir la veille de l'événement avec une liste de leurs chansons préférée et entraînante et d'élaborer ensemble une fable commune qui va prendre corps donc dans le lieu, dans la ville, dans l'humeur du jour. Leur contrainte d'écriture, c'est que chaque épisode de leur histoire doit se terminer par le titre d'une chanson. C'est Simon Boulris qui sera à l'animation de la soirée et parmi les artistes présents, il y aura entre autres Véronique Bachan. Simon fera partie également de l'expérience. Jean-Paul Daou, Carole David et El Kana Talbi. Alors, à ne pas manquer, si vous voulez de l'information concernant le Fil, festival-fil.qc.ca. Vous savez que le Salon du livre de Montréal aura lieu un petit peu plus tard cet automne. C'est du 27 novembre au 1er décembre. Pourquoi je vous en parle tout de suite? C'est parce que les passeports pour le Salon du livre de Montréal sont en vente présentement. Donc, 11 $ au lieu de 30 $ pour pouvoir avoir accès au salon pendant les 5 jours. C'est une promotion qui est en cours maintenant, dont vous pouvez bénéficier via le salondulivre.montréal.com. Et je termine avec un événement que j'adore, le Salon du livre jeunesse de Saint-Denis. Saint-Ours, c'est à mettre à votre agenda. Ça ne dure qu'une seule journée. C'est le 28 septembre prochain. C'est le regroupement littéraire Jeunesse de Saint-Ours qui vous invite à cette 16e édition de son salon. Cette année, la présidence d'honneur, oui, revient à M. François Barcelot, auteur prolifique qui a plus d'une cinquantaine de livres adultes et jeunesse derrière la cravate. Alors, on vous attend dans la capitale de la jeunesse littéraire à Saint-Ours le 28 pour plein de choses. Tout d'abord, rendre hommage à ces 73 participants, participantes qui sont âgés de 7 à 17 ans et qui ont relevé le défi d'écrire un livre. Alors, il y a eu un concours, on a sélectionné les meilleurs et ces jeunes-là vont avoir le plaisir de vous dédicacer et de vous vendre sur place leur livre, leur album, leur BD. En avant-midi, il y a des ateliers d'écriture et de création littéraire. C'est animé par des auteurs jeunesse ou des professionnels de l'écriture. C'est offert gratuitement et c'est pour tous, jeunes et moins jeunes. Alors, vous pouvez en bénéficier. Et ça se déroule évidemment pendant le long week-end des Journées de la culture. Alors, il y aura des organismes culturels et communautaires qui seront également présents pour vous renseigner sur leur mission puis vous offrir leurs produits et activités. Alors, c'est à ne pas manquer. Salon du livre jeunesse de Saint-Ours, le 28 septembre prochain. Pas se laisser détruire non plus. Très difficile. Voilà, c'est là-dessus qu'on se laisse tout le monde. Je vous souhaite une belle semaine, de bonnes lectures.